Coupe du monde de soccer. Directement de la Russie, retrouvons Arcadio Marcuzzi.
Ben, c'est demain du côté de la Coupe du monde en Russie que s'amorceront les demi-finales. La France affrontera la Belgique et mercredi, la Croatie fera face à l'Angleterre. On en parle avec Arcadio Marcuzzi qui est avec nous. Salut Arcadio!
Salut Jérémy!
Arcadio, es-tu prêt? Est-ce que là-bas, la Russie, est-ce qu'on est prêt pour ces matchs de demi-finale qu'on attend avec autant d'impatience?
Oui, on est prêt, on est prêt. On s'ennuie du soccer, là, les jours où il n'y a pas de foot. On trouve le temps long, les gens ont hâte à ces duels fort relevés qui nous attendent en demi-finale. Donc, je pense que tout le monde est prêt, autant les Russes, autant les Français, les Belges, les Anglais, les Croates et les journalistes. Je parle pour moi, mais pour mes collègues aussi. Je pense qu'on a très hâte à ces deux demi-finales qui risquent de nous donner, encore une fois, tout un show.
Bon, Arcadio, on y va immédiatement. Première demi-finale, la France qui affronte la Belgique. Honnêtement, j'arrive pas à départager entre cette équipe travaillante que sont les Belges et cette équipe talentueuse de la France. Comment, toi, tu vois ce duel?
Oui, c'est certain, c'est un duel assez équilibré. Deux des belles équipes, si c'est pas parmi les plus belles de cette Coupe du Monde, qui sont très dangereuses dans le dernier tiers, dans le tiers offensif. Je pense que ils ont confirmé un peu la domination européenne à cette Coupe du Monde, éliminant l'Uruguay et le Brésil, les deux dernières équipes qui restaient d'Amérique du Sud dans cette Coupe du Monde, et la France qui avait éliminé aussi l'Argentine en huitième. Donc, vraiment des fiers représentants de l'UEFA. Et je pense que, selon moi, malgré justement un duel qui risque d'être très, un duel de tous les instants, je pense que la France a un certain avantage. De par son organisation du milieu vers l'arrière, on a su démontrer une certaine étanchéité. On l'a vu contre l'Uruguay, on a été très efficace derrière. Je pense que le milieu défensif français avec... N'Golo Kanté avec Paul Pogba qui joue du grand soccer, ces deux gars-là. Je pense que ça peut être la différence face à une Belgique. Une Belgique aussi qui n'aura pas un de ses gros outils offensifs, le défenseur Thomas Meunier, l'arrière-droit, qui apporte beaucoup à l'attaque avec ses montées, avec ses centres. Il est suspendu pour accumulation de cartons. Donc, encore une fois, ça, c'est un dur coup pour la troupe à Roberto Martinez. Offensivement parlant, et des gars comme Eden Hazard, Romelu Lukaku, pour ne nommer que ceux-là, devront redoubler d'ardeur pour pencher la balance du côté de la Belgique. Mais bon, on sait qu'ils ont tous les atouts pour le faire. Donc, je donne un certain avantage à la France, mais en même temps, ce match-là peut aller dans les deux sens, c'est certain.
J'ai vu des images sur les réseaux sociaux du transport de l'équipe de France qui se rendait donc pour ce match de demi-finale. On voyait à l'interne, il y avait une caméra qui suivait les gars et on les sent extrêmement détendus. On les sent bien et très, très détendus, les Français.
Oui, je pense qu'on a vu la même vidéo. Quelques petits pas de danse, ça zouk fort du côté des Français et c'est le fun de voir ça. C'est le fun parce que le soccer, c'est ça, malgré toute la pression que ces gars-là ont, ils ont le rêve d'une nation au complet sur leurs épaules en ce moment, là. Faut pas se le cacher. Et c'est un groupe qui est jeune, c'est un groupe qui n'a pas vraiment d'expérience mondialiste. Donc, c'est beau de les voir détendus comme ça, de les voir s'amuser. Ils ont démontré, ce groupe français, que malgré cette distension, disons, hors terrain quand vient le temps de parler business, quand le sifflet initial se fait entendre, ils sont prêts, ils sont bien préparés, ils livrent des batailles à chaque moment, donc c'est une très belle équipe, c'est une très belle génération de footballeurs qui, peu importe le résultat dans cette demi-finale, peu importe comment cette Coupe du Monde se termine pour la France, ça va être un apprentissage incroyable pour cette génération qui risque de briller sur plusieurs euros encore et certaines Coupes du Monde. Donc, il y a vraiment, encore une fois, une joie qui se transmet du groupe, justement, de l'extérieur du terrain, dans le terrain. Et pour moi, c'est l'essence même du soccer.
Sauf que, Arcadio, du côté de la Belgique, on ne peut pas nier qu'il y a un certain momentum. Souviens-toi, depuis cette victoire sur le Japon, on a battu le Brésil. Collectivement, des fois, on ne sait pas ce qu'on est capable d'accomplir du côté des Belges.
Ah, c'est certain. C'est pour ça que je te dis, l'avantage que la France a sur papier, elle est minime. Et la Belgique, écoute, elle a battu le Brésil. Je te dirais pas sans forcer, parce que le Brésil est quand même revenu dans ce match, a pressé, Thibaut Courtois a dû faire des pieds et des mains pour préserver cette avance. Donc, mais en même temps, ils ont démontré toute leur efficacité. Ils se sont fait peur face au Japon, mais en même temps, ça a été comme un peu la seule fois qu'ils se sont enfargés dans cette Coupe du Monde. C'est arrivé un peu à toutes les équipes. La France n'a pas été très convaincante non plus en phase de groupe, un match difficile notamment contre le Danemark. Donc, c'est loin d'être des équipes parfaites. Et le collectif belge, comme tu le mentionnes, est solide. Et il y a une chose dont il faut parler aussi du côté des Belges, c'est la présence de Thierry Henry. L'ex-attaquant des Bleus, Thierry Henry, le plus grand buteur de la sélection française avec 51 buts. Lui, il est coach, assistant coach avec Roberto Martinez du côté des Belges. C'est un peu le coach offensif de cette équipe. C'est un modèle pour Romelu Lukaku, entre autres. Mais c'est aussi une présence, un liant pour ce groupe, un groupe qui n'a pas beaucoup d'expérience en Coupe du Monde, un groupe qui n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Lui, il amène cette tranquillité d'un ex-champion. Donc, de ce côté-là, c'est un atout incroyable, surtout qu'il est français. Donc, il connaît bien ce qui se passe de l'autre côté. Et ça, c'est un joker très important pour la Belgique.
Et comment on perçoit du côté de l'équipe de France la présence de Thierry Henry avec les Belges?
Ben écoute, il y a un certain malaise. Je ne sais pas si du côté de l'équipe de France, parce que je crois que les joueurs, ils comprennent un peu la situation, le corps technique aussi de Didier Deschamps. Ils savent un peu ce qui s'est passé. D'ailleurs, Didier Deschamps et Thierry Henry, c'était des coéquipiers en équipe de France, donc ils se connaissent très bien. Mais il faut comprendre que la carrière internationale de Thierry Henry en France se termine un peu en queue de poisson. Il y a eu ce but qu'il a marqué avec la main en 2009 pour qualifier la France face à l'Irlande. Et bon, il s'en est suivi un tollé médiatique. Et Thierry Henry s'est senti un peu délaissé, non protégé par la Fédération française, qui l'a un peu jeté à la rue là-dedans parce qu'il s'est fait bouffer par les médias, évidemment. Il y a eu après ça la mutinerie en Afrique du Sud où l'équipe de France, ce fameux épisode de l'autobus à Knysna. Donc, ça s'est mal terminé et depuis ce temps-là, comme l'a dit Noël Le Graël, le président de la Fédération française, Thierry Henry et la Fédération se sont un peu perdus de vue. Il a dit ça aujourd'hui un peu pour calmer les ardeurs parce que là, c'est une épine dans le pied des Français aujourd'hui parce qu'on se dit comment ça se fait que ce gars-là ne travaille pas pour nous, n'est pas dans notre équipe, ne travaille pas avec un gars comme Olivier Giroud au lieu de travailler avec Romelu Lukaku. Donc, de ce côté-là, il y a un certain malaise, même une certaine hystérie médiatique. D'ailleurs, je voyais sur Twitter une capsule vidéo d'un commentateur français, Gilles Verdez, qui mentionnait que, selon lui, Thierry Henry devrait se retirer du corps technique belge du moins quelques jours pour laisser passer ce match-là parce que il devrait pas aider la Belgique à battre la France. Donc, ça donne une idée de l'hystérie qui commence à régner par rapport justement à ce sujet-là en France.
Autre sujet d'hystérie chez les Français. L'arbitre choisi pour ce match vient de l'Uruguay et on le sait que la France a éliminé l'Uruguay 2-0. Est-ce que tu vois là un point d'inquiétude?
Non, pas du tout. Et on avait eu d'ailleurs la même petite hystérie lorsque Nestor Pitana, l'arbitre argentin, avait été choisi pour arbitrer France-Uruguay. Parce que la France venait d'éliminer l'Argentine. On s'est dit, c'est un peu louche. Les gens, évidemment, on saute vite aux théories du complot. Pour la deuxième fois consécutive, c'est un arbitre qui vient du pays de la dernière équipe éliminée par les Bleus. C'est un drôle de hasard, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que de là à penser que l'arbitre va vouloir venger la défaite de son équipe nationale pour au risque de bousiller sa carrière, pour moi, ça ne tient pas debout. Je pense que la FIFA fait bien de ne pas s'encombrer de ce type de pécasé. Je pense que rendu là, il faut choisir les meilleurs arbitres, ceux qui ont été les meilleurs durant le tournoi, les récompenser avec des matchs importants. Et écoute, je pense que c'est un non-lieu. Nestor Pitana, d'ailleurs, l'arbitre argentin qui a été d'office lors du match France-Uruguay, a très bien fait. Selon moi, a été exemplaire dans son arbitrage. C'est un gars qui a laissé jouer, n'est pas trop intervenu dans un match important, le type d'arbitrage que j'apprécie. Reste à voir comment ça va se passer avec cet Uruguayen, Andrés Cunha. Mais ça risque d'être un match très intéressant et je ne pense pas que l'arbitrage, ou du moins l'origine de l'arbitre, va avoir une incidence sur le résultat de cette rencontre.
Arcadio Marcuzzi, évidemment, on aura du temps pour revenir sur l'autre match de demi-finale de mercredi entre la Croatie et l'Angleterre. Mais je veux rester avec les Français parce que après le dernier match, ça t'a donné l'occasion de poser une première question à la Coupe du Monde dans un point de presse. Explique-moi la hiérarchie, là. Il y a les vétérans, tu peux pas embarquer quand tu veux là-dedans. Explique-moi comment ça s'est passé, tout ça.
Ouais, ben écoute, j'avais été à quelques conférences de presse avant celle-là, avant celle du match France-Uruguay. J'avais levé ma main à quelques reprises pour tenter de poser une question, notamment à Lionel Messi. J'aurais beaucoup aimé lui poser une question, mais ça m'a pas été donné. Voilà, je lève ma main et on me donne le droit de parole, on me passe le micro pour poser une question à Antoine Griezmann qui avait été choisi homme du match. Donc j'ai pu poser ma question. Et en fait, au niveau hiérarchique, ben c'est pas compliqué. C'est les grands médias, évidemment, premièrement ceux qui ont les droits de diffusion, les grands journaux européens, ainsi de suite, les représentants du pays des deux équipes impliquées, c'est normal. Et moi, ben le petit journaliste québécois, canadien, c'est sûr que je suis pas là dans cette grande hiérarchie du football mondial. En tout cas, on n'y est pas encore. On travaille fort pour y être. Mais j'ai été très heureux de poser une question, surtout à un gars comme Griezmann, et c'était le fun parce que faut se présenter dans le, disons, le protocole, faut se présenter avec le nom, ton média et ton pays d'origine. Donc quand je me suis entendu dire Montréal, Canada, j'ai eu un petit frisson de fierté. C'était le fun de représenter aussi un pays dans une Coupe du Monde qui n'est peut-être pas nécessairement représenté historiquement. Donc, c'était professionnellement parlant et personnellement parlant un très beau moment.
Arcadio, en terminant, dis-moi, c'est quoi le talk of the town présentement? Est-ce qu'on parle plus des matchs de demi-finale qui approchent ou on parle de l'élimination de la Russie face à la Croatie?
Je te dirais un peu des deux. C'est sûr que les demi retiennent l'attention. C'est de très beaux affrontements. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de Belges, beaucoup d'Anglais présents ici. Donc, c'est sûr que ça fait mousser un peu le tout. Mais c'est vrai qu'on parle encore de la Russie. On parle de leur élimination, certes, mais on parle surtout, les Russes parlent surtout de leur parcours héroïque là, qu'ils ont connu, alors que personne vraiment ne donnait très cher de leur peau au début du tournoi. Surtout les médias ici là, qui parlaient d'échecs garantis, qu'ils étaient destinés à ne pas réussir, ainsi de suite. Donc, vraiment, je pense que la Russie est très fière, non seulement d'accueillir cette Coupe du Monde, mais elle a découvert aussi, elle s'est découvert une passion pour son équipe nationale. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à être de la fête à ce point-là. Et je pense que ça, il y a eu un déclic qui s'est fait justement par rapport à la passion pour l'équipe nationale. Et ça, ben c'est toujours un instigateur pour des choses plus grandes. Je pense qu'il va y avoir un avant et un après Russie 2018 ici en Russie par rapport justement à la passion du soccer. On sait que c'est un sport quand même très populaire ici, mais c'est pas une grande nation footeuse, la Russie, et ça pourrait changer au cours des prochaines années avec des petits gars, des petites filles qui ont vibré au rythme de ce parcours. Et moi je le sais parce que mes premiers souvenirs quand j'étais enfant, mes premiers souvenirs de soccer, c'est en 86 avec Maradona au Mexique, la main de Dieu, la Coupe du Monde, ainsi de suite. Et ça m'a marqué à vie. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la différence entre justement un pays qui est passionné pour un sport où il ne l'est pas. Donc vraiment, on risque de le voir au cours des prochaines années, là, une belle évolution de ce côté-là ici en Russie.
Arcadio Marcuzzi, on te laisse te reposer, savourer ce match demain entre la France et le Belgique, et on se reparle demain aux amateurs de sport. Merci beaucoup, Arcadio.
Merci, Jérémy.